Destination en commun.
Bonjour et bienvenue dans les podcasts Ilévia. Je suis Gaëlle et je serai votre compagnon de voyage dans cette chaîne de podcasts. À travers différents épisodes, différentes thématiques, vous allez découvrir les coulisses du Vélil, du métro, du tram, des bus. Nous allons aussi vous partager des conseils, des témoignages et des paroles d'experts. Bref, nous allons mieux comprendre le fonctionnement des transports en commun de la métropole européenne de Lille et vous l'aurez compris, nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Aujourd'hui, je suis sur la ligne 1 du métro à hauteur de la gare Lille-Flandre et je suis accompagnée d'Anne, guide touristique sur la métropole européenne de Lille. Au programme, une balade à pied entre la station de métro gare Lille-Flandre et celle de Riour. Alors venez avec moi et je suis sûre qu'après l'écoute de ce podcast, la prochaine fois que vous ferez ce trajet, eh bien vous le verrez d'un autre œil. Bonjour Anne.
Bonjour Gaëlle, on y va. Alors, nous voilà sortis de la gare Lille-Flandre. Juste devant, n'oubliez pas de saluer la jolie Romy, c'est la jeune femme jaune melon. Eh oui, c'est ainsi que Xavier Veillant, son créateur, a défini sa couleur. Elle est idéale pour faire un selfie coloré juste à côté. Et est-ce que vous le saviez, cette gare est l'ancienne gare du Nord à Paris. Les Rothschild, alors propriétaires de la Compagnie des chemins de fer du Nord, l'avaient fait démonter et transporter, ça leur coûtait pas très cher, pour la reconstruire ici. Bon, finalement, les Lillois n'étaient pas très contents d'avoir une gare de seconde main, c'était une autre époque. On ajouta alors, pour les satisfaire, un étage et ce fronton avec une horloge. L'idée surtout, c'est de ne pas rater son train. Sur la place de la gare, et dos à la gare donc, à votre gauche se trouve un joli rang de maisons art déco. Et les numéros 12 et 18 portent au sommet le même oiseau. Est-ce que vous le voyez? C'est un pélican. Là, on vous annonce tout de suite la couleur. Les Lillois aiment la bière, car Pélican était une célèbre brasserie fondée en 1921. Et son nom, eh oui, fut inspiré par la danse du Pélican, un foxtrot alors très à la mode. Après ce joli rang de maisons, on traverse la rue du Prier. C'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur le chevet, c'est-à-dire l'arrière, de l'église Saint-Maurice. Avant d'être occupé par une église, cet emplacement était celui d'un temple dédié au dieu romain Mars. C'est vous dire qu'elle est très très ancienne. Et hop, maintenant nous entrons dans la rue Fédère. Cette large rue, vous voyez, est la seule à Lille d'esprit haussmannien, comme les belles rues parisiennes. Elle est percée en 1870 pour relier la gare derrière nous à la Grand Place devant nous. Ici se déroulent les grandes parades de l'île 3000. La rue est alors décorée aux emblèmes de la fête. Nous y avons vu, voyons, des éléphants, des bébés dragons ou encore des arches futuristes. À vous de découvrir comment sera pavoisée la rue lors de la prochaine saison. Et alors surtout, ne ratez pas la parade inaugurale. On traverse maintenant la rue des Ponts de Comines. Dans cette rue, il faut que vous imaginiez un canal qui occupait la partie gauche et des petits ponts qui enjambaient l'eau pour accéder aux maisons. Eh oui, ce n'est pas pour rien que l'île s'appelle ainsi. Née du Nil, nichée dans une boucle de la Deule, notre rivière lilloise qu'on adore. À l'angle de cette rue se trouve un joli immeuble coiffé d'une coupole. Mais c'est sur la façade, juste au-dessous du panneau rue Fédère, est-ce que vous l'avez trouvé, le panneau rue Fédère, que se trouve une fée verte qui veille sur notre balade. C'est la fée d'herbe, un jeu de mots en images de l'artiste Mi Famosa et clin d'œil au célèbre général qui est né à Lille. Nous voici presque arrivés au bout de la rue, qui fait la part belle aux piétons et aux vélos. Déjà, on aperçoit deux autres coupoles qui marquent l'entrée de la rue côté place du théâtre. Regardez celle de l'hôtel Carlton à gauche. Est-ce que vous voyez les deux couronnes tout en haut? Une sur la boule dorée et une autre sur la girouette. C'est l'emblème de la couronne d'Angleterre, eh oui, qui participe à la reconstruction de l'hôtel après la Première Guerre mondiale, qui avait détruit une grosse partie de la rue Fédère. God save the Queen! Allez, on traverse pour aller sur la place du théâtre. Avec un peu de chance, ce sera l'air du Carillon qui joue le petit quinquin, notre célèbre berceuse lilloise. Eh oui, cette berceuse raconte en patois l'histoire d'une pauvre dintelière. Elle veut endormir son petit garçon pour travailler tranquillement et gagner quelques sous. Et ce carillon est au sommet du beffroi de la chambre de commerce. Ce grand bâtiment, perché à 76 mètres du sol, face à nous. Il est beau, non ? Juste de l'autre côté du boulevard Carnot se trouve l'opéra. Majestueux, avec Apollon et ses muses au fronton. Vous vous souvenez combien il y a de muses ? 9 muses, tout là-haut. Et il y a aussi un petit bonhomme, vous allez peut-être le voir, il a des ailes de papillon et il s'appelle Zéphyr. Et ces deux bâtiments de style très différent, l'opéra et la chambre de commerce, sont du même architecte, Louis-Marie Cordonnier, une star à son époque. On tourne le dos à l'opéra. Devant nous se trouve un des plus anciens bâtiments de la ville, c'est la vieille bourse. Au XVIIe siècle, les riches marchands lillois demandent l'autorisation de construire cet édifice à leur souverain, Philippe IV d'Espagne. Là, on fait la révérence. Et oui, l'île était alors sous domination espagnole. L'île fait alors une bonne affaire, puisqu'elle vend 24 terrains pour bâtir 24 maisons identiques qui sont aujourd'hui encore des commerces. Entrez donc par la porte face à l'opéra. Vous voilà donc dans la bourse. C'est l'espace central et la galerie où sont installés aujourd'hui des bouquinistes, des joueurs d'échecs et parfois même des joueurs de tango, mais c'est uniquement le dimanche et en septembre. On quitte la vieille bourse pour ressortir vers la grande place. Enfin, c'est comme ça que nous, Lillois, on appelle cette place. Mais son vrai nom, c'est Place du Général de Gaulle. Car le célèbre Charles est né à Lille en 1890. À l'époque, dans la bourgeoisie, les femmes venaient accoucher chez leur mère. Jeanne et Henri, les futurs parents, quittent donc Paris pour venir à Lille, au 9 rue Princesse, chez la grand-mère de Charles. Il reviendra souvent à Lille, voir sa grand-mère. D'ailleurs, il dit de lui-même qu'il est un petit Lillois de Paris. Sur cette grande place, le monument le plus visible est sans doute la colonne au milieu de la fontaine, juste face à vous. La dame perchée fait 3 mètres de haut, impossible de la louper. Approchez-vous et regardez ses yeux furieux. Elle n'a pas l'air commode. C'est que les Autrichiens l'attaquent et tirent à boulet rouge pour l'incendier. Eh oui, cette dame à la couronne de remparts, c'est la ville de Lille, qui, en 1792, résista 9 jours aux 36 000 boulets ennemis, mais ne capitula pas. Après ces émotions guerrières, on prendra bien le temps de nous asseoir autour de la fontaine, histoire de contempler les autres curiosités de cette place. Dos à la statue, vous êtes face à l'hôtel Bellevue, où Mozart, déjà un petit prodige, séjourna en 1765, âgé de 9 ans. À gauche, le Furet du Nord est une véritable caverne d'Ali Baba pour les lecteurs, avec ses 8000 mètres carrés de livres. On se tourne d'un quart de tour et on a face à nous un autre aspect de la Grand Place, avec un bâtiment qui est aujourd'hui le Théâtre du Nord. C'était autrefois une caserne, construite en 1717, comme l'indique la date, qui est juste au-dessus de l'horloge, elle-même surmontée d'un soleil. Et oui, un soleil, car c'est Louis XIV, le roi soleil, qui prend la ville en 1667 et la rattache à la France. Mais bon, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre les Français et les Lillois. Les officiers français, par exemple, avaient interdiction de se marier avec des Lilloises. Et donc on met cette grande garde en plein cœur de la ville, au cas où les habitants auraient l'idée de se révolter. En passant, remarquez le grand balcon avec le grand escalier, c'est un endroit idéal pour une belle photo de la place. Juste à sa gauche, le grand immeuble Art déco de notre journal local raconte aussi des bouts d'histoire de la région. Tout en haut, les trois belles dames représentent nos trois anciennes provinces, la Flandre, l'Artois et le Hainaut. L'Artois, celle de gauche, tient un bateau dans la main, sur lequel il est écrit « Terre-Neuva », en souvenir des marins qui partaient pour de longs mois pêcher la morue au large du Canada. Plus bas, sous le balcon, la devise du journal s'affiche. Défendre le travail dans la région du Nord. Eh bah oui, quoi, le boulot chez nous, ça rigole pas. Allez, il est temps de repartir. Ne manquez pas, entre la fontaine et la Grand Garde, de marcher sur les pavés du XVe siècle. Trouvez ici l'or de fouille et replacez sur le sol en souvenir des grands marchés du Moyen-Âge. De ces grands marchés est née notre braderie, chaque année en septembre, à ne pas rater pour son ambiance très 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 festive. Après les pavés, on se dirige à droite vers la place Riourt, dernière étape avant de reprendre le métro à la station Riourt. Mais avant de redescendre sous terre, il vous faut jeter un coup d'œil à la chapelle d'un ancien palais qui est juste face à vous, surmontée d'une jolie flèche. C'est l'unique vestige d'un grand bâtiment rectangulaire qui couvrait toute la place. Le fastueux Philippe, duc de Bourgogne, l'a fait bâtir au temps où l'île était bourguignonne. Eh oui, flamande, bourguignonne, espagnole et enfin française, l'histoire de l'île est mouvementée. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à entrer à l'office du tourisme qui se trouve dans ce bâtiment. Et voilà, la balade est terminée et on prend le métro. À bientôt.
Merci beaucoup Anne pour cette visite. J'espère que vous avez apprécié comme moi la balade. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.